Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pierre est magnifique, remarquable et admirable en son genre. Quelle belle idée il a eu là, dresser des tentes. C'est vouloir demeurer, rester, s'arrêter sur place. Et Pierre a raison. Que peut-on rêver de mieux que de demeurer dans la contemplation de cette belle vision? Il est ainsi des images qui sont si belles qu'on désire naturellement les conserver pour toujours. Avoir la possibilité d'y retourner pour goûter le délice de ce qu'elles représentent. Vous imaginez la beauté de ce Seigneur resplendissant, plus lumineux que la lumière, et plus beau encore que ce que les yeux peuvent voir. Le couronnement de sa beauté, c'est qu'il n'est pas un Seigneur figé, immobile, comme une statue même rayonnante, mais au contraire, c'est un Seigneur en relation vivante, dialoguant, s'entretenant avec le Moïse de la loi et le grand prophète Élie. C'est incroyable. Il me plaît à imaginer que cette belle image est un avant-goût du paradis, un avant-goût du ciel, un rayon qui a comme filtré de l'au-delà de ce royaume qui est la contemplation de Dieu, toujours en relation vivante, personnelle avec chacun. C'est cela notre paradis, un faisceau de relations unies. Alors oui, avec Pierre, construisons une tente, non pas avec nos mains, mais plutôt une tente spirituelle. Et c'est pour cela que ça tombe très bien que la Vierge Marie vienne nous rendre visite. Et faisons mémoire, dans nos heures obscures, de la clarté de cette belle lumière. Mais attention, voilà que dans notre récit, une nuée apparaît, un peu à la manière d'une ombre, et elle modifie la lumière. Et voilà qu'une voix se fait entendre et vient comme troubler l'âme. Pour le dire autrement, d'un coup, le son se fait entendre et l'image se trouble. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Cette parole est de Dieu le Père. Elle est très instructive pour nous, mes amis. La voix ne dit pas « regardez-le, contemplez-le », ce qui aurait été logique, mais bien « écoutez-le », ce qui est beaucoup plus étonnant et beaucoup plus fort. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la condition pour être disciple est d'abord de se mettre à l'écoute du Maître. Il ne s'agit donc pas de le regarder. Notre Dieu, tel qu'il se révèle en Jésus-Christ, n'est pas venu se donner à voir benoîtement telle une star. On n'est pas au spectacle. Il vient pour se donner à entendre. Il est le Verbe fait chair, il parle, et sa parole est sagesse. Elle est claire et donne sens à toute notre vie. Ce n'est qu'au terme, à la fin du périple, à la fin de notre pèlerinage, que nous aurons le repos de la vision béatifique et la joie merveilleuse de la relation parfaite. En attendant, ici-bas, c'est l'heure de l'écoute de la parole. C'est l'heure de nourrir notre intelligence, de creuser le désir de la vision béatifique. Et maintenant, encore autre chose que peut nous dire la transfiguration. Saint Paul, dans 2 Timothée 1, 8, 10, a dit que la grâce qui nous avait été donnée dans le Christ Jésus est maintenant devenue visible à nos yeux, car notre Seigneur Jésus s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité. Avec ces mots de l'apôtre, il est question de la vie qui est manifestée. Ainsi, le mont Tabor, est comme une fenêtre ouverte sur notre avenir. Il nous garantit que l'opacité de notre corps mortel se transformera un jour en vie éternelle et resplendissante comme la lumière. Cela nous renvoie à la question du corps. Ce n'est pas rien, le corps. Il ne doit pas être méprisé ou compté pour rien. Il faut être prudent. Il faut porter le casque quand on fait du vélo. L'homme ne possède pas un corps. Il est corps. Nous sommes, nous les chrétiens, corps et âme. Pas qu'une âme. Corps et âme. C'est notre corps qui a été créé directement par Dieu, qui a été adopté par le Verbe dans l'incarnation et sanctifié par l'Esprit dans le baptême. La bonne nouvelle de la transfiguration, c'est que notre corps est destiné à partager pour l'éternité la même gloire que l'âme. Corps et âme seront deux mains jointes en adoration pour l'éternité, ou deux poignées emmenottées pour une captivité éternelle, nous disait Charles Péguy. Le christianisme prêche le salut du corps et non la libération du corps, comme le font les païens. Aujourd'hui, c'est la course au lifting, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. On se pommade la figure et finalement on se donne illusion, même si parfois l'illusion évite de voir des choses curieuses. Mais concrètement, que dire à ceux qui souffrent? Que dire à ceux qui doivent assister à la défiguration de leur propre corps à travers la maladie ou de celui d'un être cher? Ce message de la transfiguration est peut-être pour eux le message le plus réconfortant. Il transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, nos pauvres corps humiliés dans la maladie et dans la mort seront rachetés. Cela est vrai, mes amis, cela est vrai, nous le croyons, nous le professons, nous le croyons dans la foi. Nos corps seront un jour des corps glorieux, tout pareil à celui de Jésus transfiguré, parce que Jésus, lui aussi, bientôt défiguré dans la passion, ressuscitera avec son corps glorieux, ce corps avec lequel il vit pour l'éternité à la droite du Père. Oh, merci Seigneur pour la transfiguration. Tout comme vous, nous sommes faits pour être transfigurés. Aidez-nous à écouter votre parole, à lui donner un peu de notre temps et en cette période de carême, peut-être faire un effort pour lui donner encore plus de temps. Vous êtes le Verbe fait chair. Votre parole est vérité. Celui qui écoute votre parole et la met en pratique, celui-là sera sauvé. Seigneur, venez transfigurer nos vies mortelles. Venez apporter le réconfort à tous ceux qui souffrent dans leur corps, qu'à travers nos œuvres, ce soit toujours plus votre lumière qui soit reconnue. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.